Et ce genre de verset qu'on lit, si le juste est sauvé difficilement, ce genre de verset sert à m'avertir quand je suis pris dans cette idéalisation de moi-même ou de la vie chrétienne. Donc, si vous, autrement dit, il n'est pas vrai que le chrétien n'a plus aucun problème avec le péché. Ça se saurait d'ailleurs. Vous comprenez? Après, il est tout à fait vrai qu'un chrétien docile, qui se repent dès que Dieu, le doigt de Dieu, il n'a même pas fini d'arriver, que déjà il se repent, il peut vivre des années entières sans faute significative, sans torsion ou perversion de pensée ou d'objectif. Tout à fait, oui. Donc, je veux dire, il est tout à fait vrai qu'un chrétien peut être exemplaire pendant des années. Et c'est écrit. Il vous rend inébranlable, irréprochable, etc. Tout à fait. Mais ça inclut un vrai cœur de disciple qui écoute, qui est... D'accord. Voilà. Autrement dit, courage, foi, joie, pas de peur, mais en aucun cas présomption et illusion.
Alors, oui, il n'y a pas de condamnation en Jésus, mais après il y a un jugement.
Oui.
D'accord. Et après?
Alors, et après, voilà. Mais là, tu anticipes sur Apocalypse 20, où nous allons bientôt, très bientôt. Donc, alors pardon, il y a un point quand même, on l'a dit comme plusieurs fois, on l'a dit avant, parce qu'on a parlé que quand c'est pardonné, mais je dois quand même le répéter une fois au moins, que Dieu juge son peuple, sauf pour ses fautes déjà pardonnées. Ça va sans dire. Hein? Ouais, Dieu juge son peuple, mais pas pour les fautes déjà pardonnées de ce peuple. Et pareil pour l'individu. Vous comprenez, hein? C'est seulement les fautes présentes. Alors vous allez me dire, mais il reste des fautes présentes? Ben, je peux juste dire, ben, chez toi, il en reste ou pas? Voilà. Après, dans l'église, dans ton église où tu es tout le temps, il y a des fautes présentes encore ou c'est que des fautes passées? Ben, bon, voilà, vous avez compris, hein? Mais bien sûr qu'il y en a. Et malheureusement, il y en aura jusqu'à la fin. Oui.
J'ai raté un truc ou qui a fait la différence entre jugement et condamnation, parce que là il ne s'agit pas du salut.
Ouais. Alors, on va y aller. Non, t'as rien raté, on va y aller. Comment dire? Le fait que Dieu ne condamne pas ses enfants ne m'autorise pas à considérer ses jugements comme peu de choses. Parce que ses jugements sont utiles, bénéfiques, etc. Alors, allez, ben on y va. Quoique. Oui, bon, il y a des références. Bon, Romains 14, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, c'est le tribunal de Christ et de Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà, allez, Apocalypse 20. Donc là, c'est le jugement dernier, si vous voulez. Parce qu'effectivement que ce n'est pas toujours facile. On dit, bon, Jésus a dit, ceux qui croient en moi ne viennent pas en jugement. Et puis ailleurs, c'est écrit, je ne sais combien de fois que tous seront jugés. Alors déjà, le sont au présent, mais, alors bon, là on dit, d'accord, s'ils sont jugés mais pas condamnés, et au jugement final, ben, pour les enfants de Dieu, c'est pareil, jugés mais pas condamnés. Probablement que quand Jésus dit « celui qui croit ne vient pas en jugement », c'est jugement au sens fort, incluant la condamnation. Et pas seulement jugement au sens de mise en lumière. Parce que celui qui croit en Jésus, bien sûr qu'il est mis en lumière. Et ce qu'il est, soit bien, soit mal, est et sera mis en lumière. Et on est heureux de ça. On ne veut pas rester comme on est. On est heureux que les choses soient mises en lumière au présent et à la fin. Je vous promets, je ne mens pas en disant que l'idée du jugement dernier me réjouit. Alors pas seulement parce qu'il va juger tous les horribles dictateurs et je ne sais quoi, mais pour moi-même. Parce qu'en vérité, comment tu veux rentrer dans sa maison en toute paix, en grande paix et en définitive paix, si tout n'a pas été mis en lumière? C'est que j'en ai parlé en parlant de la parabole des noces, une autre fois que je suis venu. Il dit, bon, tu n'as pas le vêtement de noces, mais comment tu rentres là-dedans et tu passes tout ton repas à faire gaffe qu'on ne te reconnaisse pas? Ou à faire gaffe qu'il n'y ait pas un autre chrétien qui dit, oh, au fait, vous savez, Jeannot, hein, à l'époque, quand il était... Bon, là, je fais un peu de fiction un peu à dessous, hein, vous aurez compris, mais c'est une grâce que nous soyons jugés aussi à la fin. C'est-à-dire, Dieu, il prononce les mots de la fin. Et si après le mot de la fin, il te dit rentre, eh ben, ça y est, là, tu es léger. Alors, tu vas me dire, je suis déjà léger. Oui. Mais, et tu seras encore plus léger. Parce qu'il n'y aura plus la lutte, la tentation, etc. Et en plus, il n'y aura plus le souvenir des fautes. Dieu a cette capacité de ne plus se souvenir des fautes, il le promet. Nous, on ne l'a pas. Nos propres fautes, on se rappelle malheureusement. Pas toutes, hein. Merci Seigneur, mais certaines, on se rappelle. Mais là, après, non. Allez, Apocalypse 20. Donc, c'est vraiment... Normalement, ça commence au verset 11, mais je commence quand même par le verset 10. Le diable qui les séduisait, une dernière révolte contre Dieu sur terre, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, c'est-à-dire l'antéchrist et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et après ça vient le jugement dernier. Apocalypse 22, 10, et après c'est 11. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lire maintenant, il n'y a plus le diable. C'est seulement Dieu et ses créatures. Ce n'est pas rien. Voilà. Et donc, voilà. On va lire tranquillement le paragraphe, et puis on va essayer de... Puis je vis... Donc l'Apocalypse, c'est des visions, hein, il en a plein. Puis je vis... un grand trône blanc et celui qui y était assis. Dieu. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est la fin. C'est impressionnant. Il est tellement imprécieux et tellement... saint, pur, c'est Dieu, la terre et le ciel qu'on connaît, ils disparaissent. Il n'y en a plus. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. L'éclairage principal, il est là. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Ah, pardon. Un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Merci, Yann-Marie. Oui, le livre de vie. Donc, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres, donc les premiers livres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est-à-dire, il n'y aura plus de mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et on continue un petit peu parce que ça dit la suite pour les non-quiconques. Il y a les quiconques jetés et les autres. Et donc voilà. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà. Et très courte remarque, il faut accepter que ça, ce soit un futur, quand il n'y a plus ni deuil, ni douleur, ni cri. Si on veut que ça soit la définition de la vie chrétienne actuelle sur Terre, eh bien, on n'est pas dans ce que Dieu a dit, et forcément, on va vers des désillusions. Et on ne trouve pas normal. On dit, mais je suis chrétien, j'obéis à Dieu, j'ai des douleurs. Et on dit que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal si cette vie-ci est la vraie vie. Là, ce n'est pas normal. Mais si cette vie-ci n'est que transitoire, eh ben, Dieu dit que pour le moment, si, même si ce n'est pas normal théoriquement, ce n'est pas une anomalie. Donc c'est normal. C'est important, c'est important. Alors je sais que l'opium du peuple, etc., et que, bon, ouais, vous serez heureux au paradis, en attendant, laissez-vous plumer ici-bas. Bon, mais c'est pas parce que des gens ont élaboré cette... et que effectivement l'Église sur Terre, selon les lieux et les temps, s'est un peu comportée comme ça, et beaucoup comportée comme ça, ça ne change pas la parole de Dieu. Hein. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que, quittant un siècle où on pensait le bonheur était que à venir, et tant pis si on souffre en attendant, on bascule dans un siècle où tout doit être parfait dès ici-bas. Parce que ce n'est pas ce que dit Dieu. Alors, les versets 11 à 15 de Apocalypse 20. Un grand trône, c'est la première chose qu'il faut noter. Vous voyez comment la Bible parle du jugement dernier? Un grand trône. Voilà, ça donne le ton. Et il est tellement glorieux que la terre disparaît, le ciel disparaît, tout disparaît. Et puis voilà. Mais il y a les gens. C'est impressionnant quand même. Ça montre quand même la considération que Dieu a pour sa créature, si l'on peut dire. Ni la terre et le ciel, ils y sont déjà plus, mais il y a les gens. Et ils reviennent de partout. Comme ça, ils sont là, debout, devant le trône. Et puis, des livres sont ouverts. Ailleurs, la Bible dit que nos œuvres sont notées. On n'a pas noté que tu as un 9 sur 10, hein, que Dieu les ouvre. Enfin, voilà. Les a vus et que ça, il les oublie, il oublie pas, voilà. Donc, des livres furent ouverts et tout de suite, avant même qu'ils disent, c'est ça qui est très important, si vous voulez, il faut lire comme c'est écrit, avant de dire ce qui va se passer avec les livres, tout de suite, le Saint-Esprit fait écrire à Jean, il le voit comme ça, et un livre fut ouvert. C'est-à-dire qu'on a deux, si vous voulez, critères de jugement. Il y a un seul jugement, mais le critère est double. Il y a des livres et il y a un livre. Et donc, les livres sont les critères de jugement de ce que j'ai fait, dit, pensé. Et le livre de vie, c'est le critère de jugement de qu'est-ce que j'ai fait avec Jésus. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai cru Jésus ou pas? Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'il n'y a aucune mention ici, ni ailleurs, que les chrétiens seront d'un côté et les non-chrétiens de l'autre, pour être jugés. Moi, j'ai pensé, et donc ça m'est arrivé de le dire dans des messages, tout ça, qu'il y a le jugement dernier pour tous les hommes, sauf le peuple de Christ. Et lui, il a un tribunal à part, le tribunal de Christ. Et en fait, je me trompais, parce que plusieurs versets interchangeables montrent que le tribunal de Christ, c'est celui de Dieu, c'est celui de Christ. Voilà, c'est le trône de Dieu et de l'agneau, et c'est le tribunal de Dieu et de Christ. Voilà. Donc ils sont tous là. Et quelque part, c'est heureux. C'est heureux qu'ils soient tous là. C'est-à-dire que les uns verront le jugement des autres et les autres verront le jugement des uns. Les uns verront comment Dieu fait avec les autres et les autres verront comment Dieu fait avec les uns. On y sera tous. Et Jésus a commandé aux apôtres de prêcher ça, de dire « il jugera ». Oui ? Jusque-là, ça va ?
Moi, j'ai une question sur le jugement final, ultime.
C'est celui-là ?
Voilà. Nous, moi, je parle en tant que chrétien. Quand on va comparaître devant le trône de Dieu pour être jugé, est-ce que finalement ce jugement, on n'a pas tendance à faire un parallèle avec les jugements terrestres, est-ce que ce jugement, ça ne va pas être une séparation donc de ce qui est mauvais de la présence de Dieu, alors que ce soit des gens ou en nous-mêmes? Oui. Donc finalement, est-ce que ce ne sera pas une bénédiction ultime, la dernière bénédiction de Dieu peut-être?
Oui, bien sûr que ça inclut ça. Ça inclut qu'on sera séparé du mal qui restera en nous. Mais là, ça, c'est aussi à ce moment-là que Dieu récompense ou pas. Ou que, comme Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, quelqu'un perdra sa récompense. Parce que nous, chrétiens, nous serons jugés sur nos œuvres. Ce que j'aurais fait, ce que j'aurais donné, pas donné, égoïsme, générosité, pureté, convoitise, même si ce n'est pas des choses graves. Du moins, toutes celles qu'on aura gardées jusqu'à la fin. Alors, ça consiste en quoi perdre sa récompense? Donc, c'est pas perdre le salut. C'est que Dieu avait prévu... Alors, c'est très... en gros, je ne sais pas. c'est très difficile de dire plus parce qu'on ne sait pas trop en quoi consiste la vie éternelle. Si, ça consiste à connaître Dieu, ça on sait. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il est parlé de louanges, il est parlé de chanter, il est parlé de festins, il est parlé d'activité. C'est clairement un monde d'activité. Il est parlé de nouveaux cieux et nouvelles terres, avec donc des choses, des positions, des statures, des... je ne sais pas. Et donc, il y a l'exemple de la parabole de Jésus hein, pour les talents ou les mines. Quand il dit, bon, ben voilà, tu as été fidèle avec 10, ben voilà, tu seras gouverneur de 10 villes. Alors, certains veulent l'appliquer tout de suite à ce monde-ci, à ces villes-ci. Non, il faut pas, c'est pas ça. Mais il y aura clairement des... Je ne sais pas comment dire. Dans un sens, on aura tous la même position, rachetés et autour de Dieu et l'agneau, avec l'Esprit de Dieu et de Jésus. Et puis, dans un sens, donc, si tu veux, tous pareils, et dans un autre sens, il y aura des différences d'attribution, de cadeaux, de je ne sais pas comment dire. Oui. Alors, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Certains en ont déduit qu'il nous place à des endroits où on est plus ou moins près du Seigneur, tout ça. Bon, ça, c'est écrit nulle part. Il semblerait que plusieurs demeures signifient simplement qu'il y a beaucoup de place. Très probablement, signifie qu'il y a beaucoup de place. Les récompenses, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement des responsabilités, clairement. Ce n'est pas seulement tu vas gouverner et tout ça. Ça peut être beaucoup de choses parce que Dieu est riche. Riche en bonté, en gloire, en splendeur, en beauté. Je ne sais pas moi la récompense. Ça peut être une belle robe, plus belle que les autres. Et mince, je l'ai perdue. Non, mais les robes célestes, là, c'est une robe de lumière avec... Non, alors, je ne sais pas si ce n'est pas du tout ou moins que voulu. Ça doit dépendre des gens. Il perdra sa récompense, je ne sais pas. Ou alors, simplement, il faut voir la récompense, une récompense, plus ou moins, entre guillemets, tous la même, en bonus du salut, je ne sais pas. Non, On peut vivre sans, hein. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, on peut perdre quelque chose. Tout en étant sauvé, on peut perdre quelque chose. Si. Ah oui, parce que là, il dit pas de... Toute larme. Un ancien ami chrétien de moi disait, moi, pourvu que j'ai un strapontin au ciel, je serai reconnaissant, même si je n'ai pas le canapé. Voilà, tout ça, c'est un langage imagé. Voilà. Non, c'est dans le chapitre suivant, enfin dans le 22. Le livre de vie, c'est celui, c'est clair, il est mentionné ailleurs dans l'autre, il est écrit dans ton livre, c'est là où sont marqués les noms de ceux qui sont en Christ. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui sont, le jugement dernier finit comme ça, ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas entrer dans la cité céleste, dans le paradis. Le mot est employé hein, là, dans l'Apocalypse. Ils ne peuvent pas entrer. Et ceux qui sont en Christ entrent, mais avec différentes mesures de récompense.
J'ai encore une autre question.
Vas-y.
Mais peut-être que je suis hors sujet là. Quand Jésus dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu », ça s'adresse à qui ça? Et qu'est-ce que ça veut dire « Je ne vous ai pas connu » ?
Probablement des gens, parce que les gens ils disent « Mais ouais, mais on t'a vu, tu étais dans nos rues, tout ça, et même on a chassé des démons en ton nom, on a fait ci, on a fait mi. » Mais quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », ben, ça veut dire qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Tout simplement, me semble-t-il. Je ne vous ai jamais connu, c'est pas je ne vous veux plus. Hein. C'est, je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes jamais devenu mon enfant.
Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Avec le diable?
Hélas. Ben, il y est déjà, lui.
Oui, il est déjà.
Enfin, à ce moment-là, au moment où on parle, il n'y est pas encore. Hein. On serait bien tranquille sinon. Hein. Oui, avec le diable. Oui. C'est ça, c'est pour ça que c'est si beau que ce soit écrit les temps de feu et de souffle qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu centrale, enfin Dieu, c'est pas préparé pour sa créature, ça. Mais les créatures qui auront poursuivi le mal et surtout haï le Fils, ben ils iront quand même. Et oui. Oui, là, c'est très clair, et Jésus le dit, c'est impressionnant. Hein. On l'a lu, hein. Il dit oui, où le ver ne meurt pas. Non, on l'a pas lu. Je croyais que je l'avais lu ce matin, mais Jésus parle de châtiment éternel, clairement, oui. Clairement. On ne peut pas soutenir une doctrine qui nie que la perdition est un châtiment éternel. On ne peut pas soutenir une doctrine comme ça sans effacer des textes de la Bible. C'est clairement dit. Et Jésus, qui est meilleur que Jésus, qui est plus non seulement meilleur sa connaissance, mais surtout meilleur cœur, qui a plus d'amour que Jésus, et Jésus le dit. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut accepter humblement. Il ne faut pas accepter des suggestions du genre comment un Dieu d'amour peut-il jeter des gens, les laisser souffrir, etc. C'est des idées qu'il ne faut pas accepter. Parce que cette idée inclut une chose. C'est que c'est à nous qui allons apprendre à Dieu qu'est-ce que l'amour. Ça ne nous paraît pas faisable de faire ça. Alors, comment un Dieu d'amour peut-il faire ça? Bon, ben écoute, Seigneur, on va t'apprendre, nous, qu'est-ce que c'est l'amour. C'est qu'il n'y a pas de peines éternelles, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, vous comprenez. Voilà. Non, il faut rester un cœur d'enfant devant l'Écriture, D'autant que nous, que c'est l'auteur de l'écriture qui va nous juger. C'est Dieu. Voilà. Et puis on ne rend pas service. On ne rend pas service aux gens en les laissant s'imaginer que Dieu ne jugera pas. Vraiment, on ne leur rend pas service. Oui ?
Alors, quand on évangélise, il faut toujours parler du jugement.
Alors, dans l'absolu...
On n'est pas trop habitué.
Non, on n'est pas habitué. Alors, dans l'absolu, oui, mais pas forcément en premier. Ou pas forcément... Alors, il faut... C'est, comment dire ? Évangéliser, c'est souvent beaucoup d'étapes. Des fois, non. La personne vient, on lui parle, elle se convertit, terminé. Bon. Mais souvent, il y a un contact, il est touché, ou on a prié pour quelque chose, Dieu l'a aidé, tout ça. Donc, il est touché. Donc, évidemment, là, on ne commence pas avec le jugement. Et, voilà. Bon. Mais dès que quelqu'un s'ouvre à Christ un peu et veut écouter, qui c'est ce sauveur, qui, quoi, quand, voilà. Dès qu'il veut écouter, oui, il doit entendre le kérigme. Il doit entendre que Jésus vient de Dieu, qu'il est parole de Dieu, qu'il est le Seigneur, que ce n'est pas un copain, etc. Vous voyez, il doit entendre ça, il doit entendre qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, corporellement ressuscité, que le pardon des péchés est donné par lui et que c'est lui qui jugera. Ça suffit. Il suffit que cette personne l'entende. Il jugera et ça suffit. Pas besoin, on ne va pas lui faire une étude biblique sur le jugement. Ça suffit. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le mandat si on tait systématiquement que Dieu jugera. Moi, je dois avouer que je crains que quand les choses que l'Apocalypse décrit arriveront sur Terre, évidemment, je ne sais pas quand, mais bon, on est en route, hein. Je crains qu'il y ait des multitudes de gens qui disent « mais ce n'est pas le Dieu qu'on m'avait prêché ». Vous connaissez l'épisode où il dit « les gens diront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant ». Et en fait, vous savez pourquoi ils font ça ? Parce que le ciel se retire et les montagnes sont déplacées. Et qu'est-ce qu'ils font ? Tous les pécheurs, ils y reconnaissent la main de Dieu. Venir, c'est Dieu qui fait ça, il bouleverse tout, il casse tout. Enfin, une façon de parler. Et combien se diront, mais on ne m'a pas prêché ce Dieu-là. On m'a prêché un Dieu qui va faire tout le temps ce qui m'arrange, qui va tout le temps... Enfin, vous voyez, je pousse un peu, mais... Et s'ils disent, ce n'est pas le Dieu qu'on m'a prêché, ce sera notre faute à nous. Bon, je ne vais pas finir en générant de la peur. Mais en appelant à une responsabilité quand même, voilà, parce qu'évangéliser, c'est obéir. Donc on obéit, on dit ce que lui dit. Le facteur, il ne change pas le courrier en cours de route, hein. Il donne ce que l'auteur a écrit. Après, évidemment, que selon les contacts, c'est peu à peu, c'est pas de souci. Mais on ne peut pas changer le contenu. Voilà, pour finir, je vais quand même dire un verset pour conclure. 1 Pierre 2. Où il est ? Je l'ai perdu. Oui, 1 Pierre 1, verset 13. On va conclure là-dessus, ça sera le mot de la fin, si vous voulez bien. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand il apparaîtra. Voilà. Et savoir qu'il juge, ça n'invalide pas et n'affecte pas cette parfaite espérance. Au contraire, ça s'y inclut. Mais on a une parfaite espérance que c'est de la grâce qui nous amène. Amen.